Chapitre 29. Le récit de l'enfant muet.
C'est Noam !
Crièrent ensemble plusieurs enfants. Les autres levèrent la tête et tous coururent vers le garçon qui marchait vers eux en titubant, abandonnant la cabane qu'il construisait dans les arbres du parc de la rue Duplex, l'un des plus proches du tipi.
Eh oh, les gars !
Protesta Chrysante.
Vous avez pas fini !
Elle prit à témoin sa poupée.
Tu vois, c'est comme ça, les garçons. Plus volage encore que des papillons.
Elle attrapa Lali, amusée. Elle savait que les garçons reviendraient et finiraient la cabane plus tard. Ils aimaient trop jouer avec elle, surtout par ces jours de beau temps. Chrysante était la seule à inventer des histoires aussi incroyables, auxquelles ces grands gamins croyaient à moitié. Par exemple, qu'il fallait construire une cabane pour Lali, sa poupée au pouvoir magique, car quand elle serait terminée, la cabane pourrait s'envoler, ou se mettre à marcher, ou grandir toute seule comme grandissent les arbres. Alors il fallait que la cabane soit la plus belle du monde, décorée des plus belles fleurs. Chrysante aimait laisser filer son imagination, et les enfants, les garçons le plus souvent, passaient des heures à l'écouter, se laissant mener par le bout du nez. Sauf qu'il venait de l'abandonner, pour Noam. L'enfant muet perdu avec Angèle et les autres dans la forêt. Qu'est-ce qu'il fichait là ? Chrysante observa le garçon approcher du tipi en chancelant, les pieds nus, écorchés, tous ses vêtements déchirés, le regard hagard, comme s'il avait marché ainsi depuis des semaines. Il manqua de s'écrouler, visiblement épuisé, Caméliane et Mouk le retinrent. Chrysante s'approcha.
« du calme !»
fit-elle.
« Lâchez-le !»
Noam parvint à se tenir debout, dans un équilibre incertain, comme ces oiseaux fins à long bec qui tiennent sur une seule patte.
« Écartez-vous !» ordonna Chrysante aux autres enfants. « Laissez-moi faire. J'ai l'habitude de parler avec ceux qui ne peuvent pas me répondre. N'est-ce pas, Lali ?»
Elle coinça sa poupée sous son bras et s'approcha à quelques centimètres de Noam.
« Tu viens de la forêt ?»
Où sont les autres ? »
Noam ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit, à part quelques grognements, semblables à ceux que poussent les cochons effrayés. Il se contenta de rouler des yeux fous et de dessiner des gestes étranges avec ses bras. Une dizaine d'enfants les avaient rejoints et les entouraient désormais.
« Il ne sait pas, »
expliqua Chrysante pour les enfants qui scrutaient les gestes incompréhensibles de Noam.
« Il croit qu'ils sont morts. »
Elle continua de fixer Noam.
« Quand les as-tu vus pour la dernière fois ?»
Noam agita cette fois ensemble ses bras et ses doigts, les repliant, les dépliant, tout en désignant des points invisibles en direction de la forêt. Chrysante plissait les yeux, concentrée.
« D'accord, j'ai compris. Tu t'es enfui avec deux autres enfants, puis tu les as perdus dans les bois et tu t'es retrouvé seul, pendant des jours et des jours. »
Où vivais-tu ? Où as-tu dormi ?
Noam mima à toute vitesse des gestes qui pouvaient ressembler à un toit, des arbres, le soleil, le froid, la pluie. Chrysante suivait avec précision chacun de ses mouvements.
D'accord. Tu as dormi dehors, ou sous des feuilles, ou dans des arbres, comme un animal. Tu n'arrivais pas à retrouver ton chemin.
Chrysante se tortilla à son tour, comme si sa poupée cherchait à s'échapper de sous son bras. Elle la gronda.
« Ça suffit, Lali. Tu vois bien que je parle avec Noam. Je ne peux pas toujours m'occuper de toi, alors tiens-toi tranquille. »
Elle la coinça plus fermement encore contre sa fine poitrine avant de continuer à interroger le garçon muet.
« Pourquoi t'es-tu enfui ? Pourquoi as-tu quitté la délégation ? Agnelle, Gulo-Gulo, Pépin ? Suzette ? »
Les yeux toujours aussi terrifiés, Noam mima de ses deux mains un enfant tenant un bâton, l'agitant, frappant. Cette fois, tous les enfants qui l'entouraient pensèrent avoir saisi.
« Vous avez rencontré les enfants du château ?» demanda Chrysante. « Vous vous êtes battus ? Et ensuite ?»
Noam se recroquevilla. Puis ouvrit le plus grand possible la bouche, dévoilant ses dents comme s'il voulait mordre, ouvrant ses doigts comme des griffes.
Vous avez été attaqué par un animal? Le lupo Nero?
Noam secoua la tête et répéta son mime. Les dents? Les griffes?
Ok, ok, ce n'était pas le lupo Nero. Mais une bête voulait vous dévorer. Et après? C'est là que tu t'es sauvé?
Noam secoua à nouveau négativement la tête. Il ruisselait de peur. Il leva les yeux au ciel, serra ses poings, les écarta le plus loin possible l'un de l'autre, avant de les ouvrir brusquement et de se toucher la poitrine, avec un seul doigt, plusieurs fois. Chrysante fronça les sourcils. Elle ne comprenait pas. Noam insista. Son doigt semblait vouloir percer sa poitrine. Il se pencha sur le côté, comme pour indiquer qu'il ne parvenait plus à tenir debout.
« Un arc ?»
tenta Chrysante.
« Des flèches, c'est ça ?»
Noam hocha la tête et esquissa enfin un sourire timide. C'était ça.
« Et qui lançait ces flèches ?»
Noam mima un enfant de sa taille, avec des cheveux beaucoup plus longs que les siens.
« Un enfant, c'est bien ça. C'est un enfant qui tenait l'arc. C'est un enfant qui a tiré. »
Noam grimaça de peur, tout en confirmant d'un geste de la tête. Il se retourna et pointa son doigt dans son dos cette fois, puis fit semblant de courir.
« Tu as eu peur qu'il te tue, toi aussi? Qu'il te tire dans le dos? Alors tu t'es sauvé ?»
Noam baissa la tête, honteux d'avoir abandonné les autres. Chrysante laissa filer un long silence. Elle n'insista pas. Noam avait assez souffert. Il fallait qu'il se repose. Pourtant, parmi la dizaine d'enfants les entourant, Wayne s'avança, chapeau enfoncé sur les oreilles. Il semblait en colère et n'arrivait pas à se taire.
« Mais les animaux, les oiseaux, les faons, les lapins, vous les avez trouvés? C'est pour ça que vous êtes partis? C'est pour ça qu'on vous attendait? C'est pour que vous nous expliquiez ce qui se passe? Pour qu'on puisse à nouveau les manger ?»
Tous les enfants du tipi firent comprendre d'un geste ou d'un hochement de tête qu'ils étaient d'accord. Leurs regards en coin, vers les champs d'endives et d'asperges, en disaient long. Noam parut plus effrayé encore. Il regarda autour de lui et désigna la robe jaune paille de Lali. Il passa son doigt sur elle, le porta à sa bouche, grimaça, puis s'assit, se tenant le ventre comme s'il souffrait de crampes. Tous comprirent. Les animaux étaient toujours empoisonnés. Des traces jaunes. Eux aussi avaient commencé à en repérer dans la chair de certains oiseaux. La mission Daniel avait échoué. Seul avait survécu un handicapé apeuré. Les grognements de colère se firent plus intenses. Certains enfants semblaient avoir envie de faire payer leur déception aux seuls survivants de la délégation. Le cercle se resserrait autour de l'enfant muet. Chrysante se faufila, s'avança au centre du cercle et s'assit à côté du garçon muet. Elle installa confortablement sa poupée près d'eux, puis parla à Noam comme si plus aucun enfant ne les écoutait.
« Ce n'est pas grave, Noam. Avec Lali, on va bien s'occuper de toi. On s'entendra bien, tous les trois. Tu verras, Lali est aussi bavarde que toi. »
Wayne et Cheyenne se tenaient devant Bill, essoufflés. Ils avaient grimpé à toute vitesse les escaliers jusqu'au premier étage du tipi. Bill était en train d'essayer une nouvelle cape en peau de panthère. Il hésitait entre une noire et une jaune tachetée. Toutes les fourrures étaient accrochées aux poutres de fer du tipi.
« Noam est revenu !» fit Cheyenne sans reprendre sa respiration. « Tout seul, tous les autres ont été tués !»
Bill en lâcha sa fourrure noire. Avant qu'il ait eu le temps de poser la moindre question, Wayne enchaîna.
« Ils ont croisé les enfants du château dans la forêt, armés de leurs bâtons. Ils se sont battus. Ils ont failli être dévorés. Pas par le lupo Nero, par une bête plus sauvage encore. »
À bout de souffle, Wayne dut s'arrêter de parler. Mais avant que Bill puisse lui demander d'autres précisions, Cheyenne, qui avait eu le temps de calmer sa respiration, prit le relais.
« Puis, les enfants leur ont tiré dessus avec des flèches. Alors il s'est sauvé. » De toute façon, il n'avait plus rien à faire dans la forêt où les animaux sont empoisonnés. Il a vu les traces jaunes, lui aussi. Il s'est sauvé avant qu'une flèche ne se plante dans son dos. Il a cru mourir. Tu verrais ses yeux, Bill. Des yeux de poisson qu'on sort du filet. Il a vu la mort de près.
Je crois qu'il aurait mieux valu pour lui qu'il soit aveugle plutôt que muet.
Noam est de retour. Bill parlait posément. Il avait pris le temps d'enfiler sa fourrure de panthère noire, le temps de monter calmement les marches aussi, jusqu'au quatrième étage du tipi. Tout en pensant avec précision à ce qu'il allait dire. Il fallait qu'il fasse une bonne impression sur Mordelia, mais surtout qu'il impressionne Akan. Cette fois, leur soi-disant chef ne pourrait pas nier l'évidence, et encore moins l'urgence.
Chrysante a réussi à comprendre ce que ses gestes racontaient, assura Bill sur le même ton calme. Et je pense que tu peux faire confiance à Chrysante.
Akan confirma de la tête. Il avait confiance en Chrysante. Mordelia se tenait un peu en retrait, sa longue vue à la main, son sac de livres en bandoulière sous sa cape noire.
Le récit de Noam est clair, continua Bill. Tout est empoisonné dans la forêt. Ils ont trouvé des traces jaunes dans le ventre de tous les animaux. Mais le pire est à venir, Akan. La délégation d'Agnel s'est fait attaquer par les enfants du château. À coups de bâton d'abord. Puis, ils se sont jetés sur eux pour les dévorer. Oui, Akan, tu as bien compris? Pour les dévorer, plus féroce encore que le louponero. Noam s'est sauvé avant qu'Agnel, Suzette, Gulo-Gulo et les autres ne soient tous abattus à coups de flèche. Dans le dos, dans le ventre. On ne retrouvera d'eux que les os.
Bill se tut et repensa, sans oser en parler, au squelette de la baleine bleue. Si les enfants du château étaient capables de manger entier un tel animal, ils n'avaient dû faire qu'une bouchée de ce maigrelet d'Agnel. Tout en guettant la réaction d'Akan, Bill caressa la peau soyeuse et noire de la panthère qui lui tombait jusqu'aux chevilles. Il croisa le regard de Mordelia, un regard de complicité. Elle était fière de lui, enfin, il avait rempli sa mission,
et sans rien déformer de la vérité.
Mordelia s'avança dans le dos du chef des enfants du tipi.
Cette fois, Akan, tu ne peux plus nier la réalité. Tu dois préparer la guerre.
Akan resta un long moment silencieux, comme s'il pesait les conséquences terribles des paroles qu'il allait prononcer. Il suivit le fleuve du regard jusqu'à la place de l'aiguille, puis le verger du château.
Bill, tu seras chargé d'armer les garçons et les filles. Tu rassembleras des pierres que vous aiguiserez. Vous couperez des branches solides que vous taillerez en pointe. Vous ramasserez des écorces, les plus grosses possibles, pour en faire des boucliers ou des armures qu'on coudra à nos habits. Prends 10 enfants avec toi et ramasse tout ce que tu trouveras. Vanille calculera tout ce qu'il nous faut. Cordes, cornes, bois, pierres.
Bill se redressa tel un fauve, prêt à bondir. Il était à nouveau King Bill. Cette fourrure noire allait devenir sa vraie peau. Il avait presque la sensation que sa longue queue fouettait déjà le sol d'impatience. Il ne ressentait plus aucune jalousie envers Akan, seulement l'excitation avant le grand combat. Mordelia lui fit signe de se reculer et se planta devant le chef du tipi, un sourire au coin des lèvres.
« Tu as changé d'avis, Akan. Je croyais que si on attaquait le château sans savoir comment y entrer, nous nous ferions tous massacrer. »
« Et toi, je croyais que tu la voulais, cette guerre. Alors, nous la livrerons, nous nous défendrons. Nous tuerons tous ceux que nous pourrons tuer, peu importe combien nous serons à tomber. »
Une volonté farouche brillait dans les yeux d'Akan. Une force de guerrier déterminé. Une fois sa décision prise, plus rien ne l'en ferait changer. À cet instant-là, Mordelia le trouva si beau, si fort. Aussi beau que tous les héros de son livre, aussi beau que tous ces rois grecs de l'Iliade, ces demi-dieux prêts à tout pour défendre leur honneur, prêts à se battre, prêts à tuer. Elle sentit le poids du livre contre sa poitrine, sa chaleur aussi, comme s'il irradiait. « La première partie est gagnée », pensa-t-elle. La guerre aurait bien lieu, aussi héroïque que dans son livre. Restait à trouver le moyen de la gagner. Elle tournait dans sa tête l'épisode du cheval de Troie, cette idée que la déesse Athéna avait soufflée à Ulysse pour qu'il pénètre dans les murs de la ville ennemie. Elle aussi devait en trouver une ruse, un moyen n'importe lequel pour entrer dans le château. Et, comme dans son livre, tous les massacrer jusqu'au dernier.